Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Roberto Alagna, je vous remercie pour l'interview.
Merci à vous.
Et vous êtes en Australie pour des raisons diverses. Et tout d'abord, parlez-nous de votre spectacle à Sydney, Melbourne et Brisbane.
Ce sera un spectacle que je présente pour la première fois. Donc, je n'ai jamais chanté ce programme. C'est un programme qui est fait pour plaire au plus grand nombre. Parce que souvent, nous avons bien sûr des gens qui sont passionnés d'opéra et donc pour eux, la musique classique est beaucoup plus facile d'accès. Mais il y a aussi tous ces gens qui viennent pour la première fois découvrir un artiste. Et donc, j'ai voulu leur rendre la vie beaucoup plus facile, c'est-à-dire avec des mélodies qui soient facilement reconnaissable et plaisante. Et donc, ce programme est vraiment fait pour plaire au plus grand nombre.
Oui, mais bien, qu'est-ce que vous allez canter selon,
Donc, il y aura bien sûr il y aura des pièces d'opéra, bien sûr, des duos aussi d'opéra, comme Elisabeth d'Amour et autre chose. Mais la plus grande partie, ce seront surtout des compositeurs napolitains qui ont été... vous savez que Naples a été la capitale de l'art lyrique. Et souvent, ces airs napolitains ont une résonance vraiment classique et lyrique. Et donc, ce que j'ai voulu privilégier surtout, c'est le sentiment que ces mélodies dégagent, c'est-à-dire aussi bien les sentiments dramatiques, théâtrales, mais aussi le sentiment souvent de joie, de légèreté. Donc, tous les sentiments seront dans cette musique, aux mélodies vraiment fabuleuses, avec bien sûr des grands phrasés, mais aussi des aigus, tout ce que les gens aiment dans la musique classique. Voilà. Donc, on le retrouvera dans ce programme.
Et lorsque vous êtes ici en Australie, vous allez avoir pour la première fois des membres de la famille qui ont émigré en Australie et que vous n'avez jamais rencontré.
Oui, je n'ai jamais rencontré parce que les membres qui sont arrivés ici, ce sont les grands-parents. Donc, ce sont maintenant les petits-enfants. Et donc, nous nous sommes perdus de vue puisque nous sommes aujourd'hui en France. Et voilà, on ne s'est jamais rencontrés. Mais ils vont venir au spectacle. Donc, je suis obligé de garder un peu secret cette rencontre parce que c'est de l'ordre privé et que je ne voudrais pas non plus qu'ils soient aussi, eux, dérangés dans leur vie. Je ne veux pas leur infliger ce que moi, je connais partout dans le monde, qui est plaisant pour un artiste, mais pas pour des gens qui ne sont pas artistes, parce que des fois ça peut devenir aussi un peu difficile dans la vie. Voilà, donc on va garder cette rencontre secrète, mais je peux vous dire simplement qu'ils seront au spectacle. Je ne vous dis pas dans quelle ville, mais donc ce sera un moment très éprouvant pour
c'est
moi.
C'est un secret.
Oui, très émouvant. Oui, c'est un secret et c'est quelque chose d'ordre privé.
Oui, et vous êtes aussi pour présenter votre nouvel album.
Oui, c'est un nouvel album qui s'appelle Robertissimo. Pourquoi Robertissimo? Parce que ça, c'est une sorte de rétrospective de tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Donc aussi bien l'opéra que la musique populaire traditionnelle, la musique légère. Donc il y aura un ensemble de tout ça. Et donc on ne trouvait pas le disque pour pouvoir dire, on aurait pu l'appeler anthologie, je ne sais pas. Mais on a voulu trouver quelque chose de beaucoup plus, accessible pour les gens, mais aussi avec une sorte de proximité. Puisque c'est ça qui aujourd'hui me représente, c'est la proximité. Les gens dans la rue m'appellent Roberto. Donc on s'est dit, voilà, on va l'appeler Roberto au carré. Allez, Robertissimo.
Oui, Robertissimo. Bien. Et vous avez mentionné à plusieurs reprises que tout le monde dans votre famille aime la musique.
Alors plus que ça, vous savez, j'ai une famille très artistique, bien sûr, avec mes frères d'ailleurs, qui sont aussi peintres, sculpteurs, metteurs en scène, compositeurs, enfin un peu de tout. Mais je dois dire que dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir des artistes de au niveau, avec aussi des chanteurs, hein, beaucoup de ténors dans ma famille. Déjà mon arrière-grand-père qui lui avait connu aussi Caruso, il est né et il est décédé aussi à New York. Voilà, donc ça commence très tôt cette passion du chant, mais aussi des instruments. J'ai beaucoup d'instrumentistes dans ma famille, des peintres, des poètes. Voilà, c'est une famille très très artistique. Je dois dire que beaucoup de familles siciliennes sont dans cette catégorie.
Et Luciano Pavarotti était vital pour votre carrière artistique.
Oui.
Pourquoi?
Ben parce que déjà j'avais une admiration sans borne pour cet homme. Pour moi c'était une sorte de demi-dieu. Je fais toujours la comparaison. Pour moi c'est une sorte de mélange de Bacchus et de Poséidon ensemble. Donc je le voyais comme ça, comme une sorte de surhomme. Et je dois dire que encore aujourd'hui, il me manque énormément parce que c'est vrai que j'ai fait toutes mes études en me basant sur la technique de Luciano, parce que il avait une technique parfaite, surtout dans les notes de passage, où il avait réussi à trouver le juste équilibre pour dans la couverture du son. Voilà, c'est quelque chose qu'il avait travaillé pendant des années, et donc j'ai essayé de suivre cette technique. Et je dois dire qu'en plus, c'était l'homme qui me fascinait parce qu'il avait une sorte de sagesse des grands là. Il avait la sagesse des grands. Voilà, c'était un sage. Il avait très 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 intelligent, un humour vraiment vraiment très très décapant. Et je dois dire que voilà, quand on passait un bon moment, quand on se rencontrait.
Il a donné beaucoup de conseils.
Non, il n'a pas donné de conseils et c'est ça qui m'a plu parce que en fait, le seul conseil qu'il m'a donné, c'était au début quand il m'a dit « ne chante pas les choses dramatiques maintenant, tu les chanteras plus tard. Aujourd'hui, il faut chanter lyrique. » Voilà, c'est le seul conseil et je me souviens que j'étais allé le voir pour avoir justement un professeur en Italie et lui m'avait dit « non, ne change pas de professeur, reste avec ton professeur. » Mais je n'ai jamais pu lui dévoiler que mon professeur, ben, c'était pas un vrai professeur d'opéra puisque moi, mon professeur, c'était un instrumentiste, un Cubain, et c'était surtout un professeur que j'avais rencontré lorsque je faisais du cabaret, donc avec des Sud-Américains, qui était un professeur de musique populaire. Voilà, mais bon, je suis resté avec lui, et voilà, et bon, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis content parce que, quelque part, je n'ai pas eu de déformation. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est qu'un artiste, un chanteur d'opéra, est programmé pour savoir émettre le son, comme un sportif. Vous savez, ces athlètes qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, ils ont ça, ils ont cette programmation faite par la nature. Et c'est la même chose avec le chant. Et souvent, avec les professeurs, les conseils viennent bugger ce programme. Et c'est là que ça devient difficile. En fait, il faut essayer de méditer et de trouver en soi l'origine de cette programmation. C'est ça la difficulté de la technique.
Mais il a fortement suggéré de protéger votre voix.
Non, il m'a toujours dit de faire attention au répertoire, c'est tout, et de garder la flamme. Parce que la chose importante, c'est la flamme qu'on a, l'envie. Quand on perd sa voix, c'est soit on perd ses nerfs, soit on perd l'envie. Mais la voix, en réalité, si on peut parler, on peut chanter. Après, bien sûr, ça se travaille, ça vieillit, donc il faut l'adapter. C'est ça la difficulté de la voix. Mais vous savez, le respect de la voix, c'est d'avoir le respect de la voix, c'est de protéger sa voix comme un enfant, voilà, comme une femme. C'est ça le secret.
Oui, mais parfois, vous avez accepté de chanter des grands opéras ou deux grands opéras.
Oui, mais c'est ça, respecter la voix. Respecter la voix, c'est pas de ne pas chanter. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un instrument, un Stradivarius, et parce que vous ne voulez pas l'abîmer, vous le mettez de côté et vous ne jouez pas cet instrument. Cet instrument va périr, même si c'est un Stradivarius. Vous voyez, la voix, il faut la respecter, donc il faut l'utiliser. Après, il ne faut pas l'utiliser d'une façon exagérée. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça, respecter sa voix. Vous savez, de chanter des rôles difficiles. Vous savez, Caruso a dit qu'il avait appris à chanter à partir du moment où il a chanté Aïda, Radamès. C'est là qu'il a appris à chanter. C'est parce que souvent, dans le dépassement de soi, on trouve des choses. Après, il ne faut pas chanter que des choses dramatiques. Il faut alterner. C'est ce que j'ai fait toute ma carrière. J'ai toujours chanté des choses dramatiques, mais aussi des choses lyriques et légères dans le même temps.
Maintenant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire l'histoire de vous et l'étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, Sylvie Guillem?
Sylvie Guillem, oui, Sylvie Guillem, c'était ma voisine, elle habitait trois maisons plus loin. Et voilà, et donc il y avait une sorte de petit problème parce que nous, on était des fraîchement arrivés en France, donc moi, on était là depuis quelques années, et donc on était un peu l'étranger, et donc les gens ont peur de l'étranger, ont peur des gens qui sont un peu différents. Et souvent, au contraire, au lieu d'aller vers l'autre, on s'en éloigne, et ça, c'est l'erreur. Et c'est l'erreur que son père a faite, c'était de dire à ses enfants, vous voyez, eux, ce sont des petits garnements, il faut pas jouer avec eux. Alors que en réalité, on faisait la même chose, puisque un jour, on s'est rencontrés bien des années plus tard à Tokyo, et on en a parlé. Et j'ai demandé à Sylvie, mais pourquoi tu passais comme ça, toujours en courant devant chez nous? Et en fait, elle m'a avoué qu'elle avait peur de passer devant notre maison. Et alors que nous, on était juste des pauvres immigrés qui étaient là et qu'on aurait voulu au contraire lier amitié avec les voisins. Et après, ça s'est fait, bien sûr, hein, avec les années. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a une sorte de crainte et c'est dommage. Et donc, aujourd'hui, quand son père me rencontre ou rencontre mes parents, il pleure parce qu'il se dit, il se met à la place de ce petit garçon qui jouait dans la rue et qui a fait ensuite le même chemin que sa fille, mais tout seul. Et voilà, et ensuite on s'est retrouvé dans les plus grands théâtres du monde, à Covent Garden, à Paris, partout, où sa fille dansait et moi je chantais. Et voilà, donc, mais c'est une belle histoire. Et maintenant je comprends aussi pourquoi souvent les gens ont une crainte par rapport à ceux qu'ils ne connaissent pas.
Alors, avez-vous ressenti, vous avez été victime parce que vous venez d'une famille migrante?
Je n'ai pas été victime parce que c'est vrai qu'au départ, on nous appelait les Rital. En France, les Rital, c'est un peu comme, comment dire, c'est un peu péjoratif. Mais bon, ensuite, c'est devenu même sympathique. Il y a même Cavana qui en a fait un livre qui s'appelle Les Rital et qui est un livre magnifique parce que ça raconte vraiment l'histoire de tous ces immigrés italiens. Mais je dois dire que, vous savez, à l'époque, quand moi j'étais enfant, il y avait encore il y avait encore les souvenirs de la guerre, il y avait encore tous ces souvenirs-là. Donc l'italien, il était un peu mal vu. Je me souviens aussi que mes beaux-parents, les parents de Florence, ma première épouse, quand elle a annoncé qu'elle était avec un Italien, donc moi, ils étaient un peu réticents. Voilà, pour eux, c'était « oh là là, les Italiens, c'était mal vu ». Et puis, peu à peu, à mon adolescence, l'Italien est devenu sympathique, il est devenu, il est devenu à la mode, grâce à des gens comme Aldo Maccione, qui ont fait des films qui étaient comiques, qui étaient amusants, l'accent et tout ça. Et donc, l'Italien est devenu, au contraire, presque une sorte de Don Juan, et on était devenu un peu les Don Juan de l'école, parce qu'on était un peu italien. Alors, c'est vrai, Roberto, tout ça, ça sonnait un peu exotique pour eux, et c'est vrai que l'Italien est devenu vite sympathique.
Vous sentez-vous plus français ou italien?
Non, aujourd'hui, pendant longtemps, je me sentais ni français ni italien, donc j'étais un peu perdu dans ces. Je n'avais pas de fibre patriotique, mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que je me sens peut-être plus français parce que je suis plus en France et parce que j'ai fait mes études en France. Mais il y a toujours le sang italien. D'ailleurs, tous mes disques, on le sent dans mes disques. Quand je reviens, c'est souvent des disques italiens, siciliens, parce que j'ai besoin aussi d'affirmer mon origine et de retrouver ses origines. D'ailleurs, là, je parlais avec mon épouse qui me disait, tiens, il faudrait qu'on achète un petit appartement à Ortigia, à Syracuse. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Ça serait bien parce que même pour les enfants, de retrouver aussi les origines. Vous voyez, donc, les origines sont là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, je me sens français parce que c'est ma vie, parce que j'ai vécu beaucoup. Je suis né en France. Je sais pas, il y a quelque chose. J'ai trouvé une fibre patriotique en 2005 aussi. Lorsque j'ai chanté la Marseillaise, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens même presque citoyen du monde. Voilà, c'est ça qui est assez formidable. J'ai vécu un peu partout. Mon travail m'emmène dans le monde entier. Et c'est vrai que même si je ne suis plus beaucoup en France, pas beaucoup en Italie, mais je suis beaucoup partout.
Bien, alors, un message pour la communauté de langue française ici en Australie?
Ah ben, ce que je voudrais leur dire, déjà, venez au concert, parce que même si c'est un répertoire plutôt italien, il y a toujours la flamme de l'enfant qui a grandi et qui est né en France. Et donc, voilà, les Français me connaissent très bien, ils savent très bien mon tempérament, ils savent très bien ma proximité, ils savent que je suis toujours généreux avec mon public et que je suis quelqu'un qui ne triche pas et que lorsque je veux défendre un répertoire, je le défends vraiment avec tout mon cœur. Voilà, donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est venez parce que vous serez bienvenus et qu'on va passer un bon moment.
Roberto Lagna, merci.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.